Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour Apolline.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. On va évidemment parler prix du carburant, on va parler prix dans les rayons, on va parler inflation. Mais d'abord le comportement des Français avec cette extrême chaleur précoce. Est-ce que vous le voyez, vous, dans les rayons? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les gens se déplacent pour faire leurs courses? Est-ce qu'ils restent dans la fraîcheur de vos magasins?
Alors, tant qu'on est dans les terres, oui, l'hypermarché, le centre commercial, devient un havre avec sa climatisation, c'est de la fraîcheur, on peut s'asseoir. J'invite d'ailleurs à reconsidérer souvent la visite de l'hypermarché. J'invite mes adhérents à voir qu'il manque des bancs. C'est important de savoir accueillir, recevoir. Et quand on est au bord de mer, non, c'est l'inverse. On va à la mer le matin, on va à la mer le soir et on va faire les courses dans un
plus
temps plus court.
Ouais, plus voilà, au milieu de la journée.
Pour ne pas trimballer les enfants. Mais c'est un classique, sauf qu'aujourd'hui, c'est un classique très chaud. Quoi.
Clim ou pas clim? Vous avez pas
de... Si, on a des clims dans les magasins. Et alors, justement, des clims dans le cadre d'un plan de rénovation où on utilise le froid pour faire du chaud et du chaud pour faire de froid. On va être pionnier, on va mettre près de 2,3 milliards d'ici 2035 dans la lutte anti-gaspi pour un plan de sobriété énergétique, chaque magasin, chaque armoire surgelée, chaque frigo, mais aussi pour récupérer ces chaleurs, récupérer les chaleurs du sol avec la géothermie stabiliser la fraîcheur et la chaleur dans les magasins. C'est une vraie révolution pour diminuer les énergies fossiles, pour diminuer le gaz, pour diminuer le fuel et tout ce dont on va se séparer pour reconquérir notre souveraineté.
Le ministre de l'économie, qui était mon invité hier à ce micro, a parlé de vous comme d'un prophète de malheur. Et il a même dit, mais qu'il fasse son métier. Vous aviez évoqué une perspective probable de remontée de l'inflation jusqu'à 3-4% d'ici probablement en juillet ou en août. Il dit à cela, qu'il fasse son métier et qu'il fasse baisser les prix. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je pense que ces mots traduisent le désarroi de décideurs politiques qui arrivent pas à décider. J'ai fait une petite collette comme ça. Madame Genevard, qui était très contente de me retrouver, y compris pour le Tour de France, pour défendre le chou-fleur.
La ministre de l'Agriculture.
Oui, elle dit certaines enseignes procèdent à un chantage mortifère. L'escurce, je suis un prophète de malheur. C'est assez catho d'ailleurs comme sémantique.
Prophète, ouais. Oui.
Monsieur Papin, mon ministre du Commerce, mon ex-concurrent et néanmoins ami, E. Leclerc, faux apôtre du pouvoir d'achat. Président de l'ANIA, le lobby de l'agro-industrie, les patrons de la grande distribution menacent l'économie réelle, dont ils seraient sans doute les héros. On dirait du Maurras, on dirait mon grand-père lisant du Maurras. La sénatrice Antoinette Guth et Anne-Catherine Lozier, qui étaient à la tête de cette commission à charge contre la grande distribution, parlent de pratiques prédatrices de la grande distribution.
Alors là, vous mélangez les industriels et les politiques.
Oui, mais en fait, ça veut dire que les élites françaises, je fais pas du lepénisme, les élites françaises dont je fais partie, qui ont fait des études, qui ont le pouvoir, qui savent parler en public, les élites françaises ont de tout temps été anti-commerce. Elles sont agrariennes, elles sont industrialistes, elles n'aiment pas le commerce. Et c'est pour ça que mon père, pendant très longtemps, on l'a appelé l'épicier de Landerneau, ce qui est un gentil petit sobriquet aujourd'hui. À l'époque, c'était un peu comme l'escure. Moi, je fais de l'économie, toi, reste à ta place, reste épicier. Et moi, on me demande de rester épicier, ce que je ne ferai pas.
Alors, vous allez regarder, évidemment, on va regarder dans les détails, mais je trouve que la manière dont vous présentez les choses, pardon, quand vous dites, on dirait du Maurras, mais vous, on dirait du boulanger, oui. Au sens du boulangisme, c'est-à-dire, pardon, au sens aussi d'une forme de populisme, genre, nous, les petits, contre les grands. Vous n'allez pas nous faire pleurer, quand même.
Je ne vais pas vous faire pleurer, parce que nous, on marche...
L'ILEC, dont vous parlez comme d'un lobby, et l'ANIA, c'est-à-dire les représentants de la grande industrie, disent d'ailleurs, ils jouent les Robins des Bois.
Oui, enfin, ils jouent les mauvais prévôts, parce que quand même, on est les moins chers. Personne, mettez qu'on n'est pas le premier, mettez qu'on est le deuxième, mettez qu'on est le troisième. Moi, je crois qu'on est le premier, mais on est sur le podium. de ce qu'il faut faire en France aujourd'hui en période d'inflation. Et donc, vous trouvez pas ça normal qu'on s'en prenne à ceux qui vendent moins cher et pas à ceux qui vendent très cher? On s'en prend pas au luxe, on s'en prend pas à la distribution sélective, on s'en prend à ceux qui vendent moins cher. Et dites-moi, dans l'intérêt de qui? Dites-moi, dans l'intérêt de qui? Moi, je passe sur les plateaux de télévision souvent à la suite de commissions parlementaires où on nous dézingue. Il y a une quinzaine de lois en 20 ans qui sont sorties, qui sont anti-distribution. Moi, je m'en fous. Je fais un métier dans l'action, je fédère 700 chefs d'entreprise. La lutte pour le pouvoir d'achat par les prix bas, c'est nous. C'est nous, c'est Leclerc, c'est Système U, c'est Intermarché, c'est Carrefour qui revient dans la course. Ce sont les hard discounters qui se sont installés en France.
On va regarder,
c'est nous,
Michel,
qui faisons le bouclier contre l'inflation.
Dans le détail des prix et de la construction des prix. Mais je voudrais vraiment qu'on prenne les choses les unes après les autres. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, sur le début de notre échange, prophète de malheur, il disait ça à propos de l'inflation. Est-ce que ce matin, Michel-Edouard Leclerc, vous maintenez votre prévision? Vous maintenez qu'en l'état de ce que vous voyez à la fois de la consommation et de la fabrication des prix, pour vous, en juillet-août, on pourra être à 3 ou 4% d'inflation.
Sur la base d'un mois de conflit à Hormuz, les institutions européennes, Eurostat, je ne sais pas si c'est une institution, mais c'est une édition d'économistes qui fait foi, dit que l'inflation en Europe, en fin juin, sera entre 2,5 et 3,5. C'est repris par tous les journaux hier, d'accord? Moi, je dis que si on rajoute encore un mois de percussions sur le prix des carburants, sur le prix des transports, la plasturgie, l'emballage en France, on sera aux alentours de 3 et 4 à la sortie de l'été.
Donc vous maintenez?
Est-ce que je suis prophète de malheur? Je ne veux pas l'être. Je me dis que, puisque Monsieur Lescure parle du réel, je suis dans le réel, j'anticipe ce réel, et donc je me mets en mode combat pour que les consommateurs ne se fassent pas avoir.
Est-ce que lui est dans le déni lorsqu'il dit encore à ce micro hier matin, non, l'économie française résiste, elle résiste mieux que nos voisins, et d'ailleurs nous arrivons à contenir l'inflation, là vous donniez les chiffres européens. Lui il dit, non, mais en France ça va moins pire qu'ailleurs.
En France ça va moins pire qu'ailleurs, parce qu'on dépend quand même moins du pétrole que les pays de l'Europe de l'Est, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas d'inflation si pas l'Europe, si pas la Banque Centrale, non, si les gens d'action se mettent face à cette spéculation, face à cette augmentation. Et moi, ce que je demande, c'est pas simplement que les industriels puissent venir me retrouver en disant j'ai des hausses à faire passer. Ça, on nous a fait le coup pendant la guerre en Ukraine, hein, où on a eu des hausses de 25%, 30% sur les pads, le tournesol et tout ça. Donc je dis dès maintenant à tous les industriels, non, l'inflation n'a pas lieu de contaminer le reste de l'économie hors carburant. Par contre, vous avez des problèmes, vous transporteurs, ok. Vous aurez des problèmes, vous agriculteurs, avec les engrais, ok, on prend date. Mais là, aujourd'hui, on prend pas votre inflation. Et donc, quand vous avez le président de la FNSEA, Monsieur Rousseau, qui dit, il faut rouvrir la négociation. Quand vous avez le président de la coopérative agricole française, Monsieur Dominique Charget, qui dit, depuis un mois, il est urgent d'ouvrir les négociations, on leur dit non. D'abord, dans nos accords, nous aussi, on défend la ferme France. Mais dans les accords qu'on a signés, il y a des clauses d'indexation qui fait que pour le moment, ça peut tenir comme ça. Et j'en témoigne auprès des consommateurs. Nous pouvons résister à cette première vague d'inflation. Il y a une petite inflation, 1%, 2%. Mais pour la grande, on n'ouvre pas les vannes.
On n'ouvre pas les vannes, vous ne rouvrirez pas de manière globale les négociations sur les prix. Cette fameuse commission dont vous parlez, qui effectivement a été une commission sur la grande distribution, commission parlementaire, elle arrive à la conclusion suivante. Quand on achète pour 100 euros de denrées alimentaires, 100 euros d'achat alimentaire, il y a 8 euros qui vont aux agriculteurs, il y a 14 euros qui vont aux industriels, dont vous parliez à l'instant, et il y a 40 euros qui vont à la grande distribution.
Alors ça ne fait pas le compte, hein, de toute façon.
Donc, non, mais parce qu'ils disent qu'une fois qu'on a enlevé les transports, là, 40%.
C'est nul. Je veux dire.
Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, ma question, non. C'est pas que c'est nul ou que c'est pas nul, est-ce que c'est vrai?
C'est nul parce que c'est non. Enfin, n'importe lequel de mes étudiants à Neoma, à Rouen, à Reims, aurait rédigé ce rapport, 400 pages. il saurait que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, déjà Alexandre Bompard a expliqué que un hypermarché prenait à peu près 26% de marge brute et se retrouvait avec 1% de bénéfice net avant impôt. Voilà, on reconstruit
donc ce
pas
chiffre,
par derrière.
Ce chiffre, non, c'est quoi, c'est du mensonge.
Ce sont des confusions entre création de valeur, entre marge brute. Franchement, j'en suis pas à la page 440 et j'ai lu la moitié du rapport. C'est inepte.
Il parle de vous comme de prédateur dans un système mortifère,
voilà.
Où en réalité vous intimidez vos interlocuteurs,
oui.
Avec qui, lorsque vous négociez, vous menacez de les déréférencer, de ne plus les vendre, et donc ils négocient en quelque sorte le couteau sous la gorge.
Alors vous imaginez ce que ce serait si j'étais pas là, moi le méchant, vous imaginez l'inflation qu'il y aurait ? Non, faut pas charrier, on est en Europe. Nous achetons avec des points de comparaison. Leclerc est allié avec Coop Italia, qui est une très belle image en Italie. Intermarché est allié avec la Conad.
Ça veut dire que c'est très français pour
vous ? Oui, c'est complètement français. Les Français n'aiment les industriels français. Je vous dis, les décideurs français n'aiment pas le commerce. Là où les Chinois font d'abord la route de la soie pour vendre, là où les pays anglo-saxons protestants visent beaucoup sur le régime des concessions avant de vendre, là où même autour de la Méditerranée. La fonction commerciale est première tout autour de la Méditerranée. C'est un peuple de commerçants. La civilisation s'échange avec le commerce, l'a dit Braudel, l'ont dit tous les historiens. En France, moi je croyais que c'était une vieille culpabilité catho, quand le commerce était
parasite. Aujourd'hui, les cathos, ils en prennent dans leur grade.
Mais regardez bien. De l'histoire de mon père à celle de Carrefour, à celle de Système U, quoi. C'est rester à votre place. Vous êtes essentiel ou vous n'êtes pas essentiel ? Vous êtes essentiel,
vous
restez ouvert.
Vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir bon dos, d'être les boucs émissaires de cette crise.
Moi, j'ai fait toute ma vie comme ça. Ça me touche pas. Mais je pense à tous nos salariés. On a 180 000 salariés dans les centres Leclerc. Quand vous voyez qu'on est traité comme ça en haut lieu, c'est vraiment, ça vole pas. Par contre, il y a un bon modèle dont pourraient s'inspirer les ministres. C'est celui qu'a fait le président de la République lundi. Il a réuni toutes les filières
de l'électrique.
Vous voyez, ça allait depuis les producteurs de réacteurs nucléaires, ceux qui font fonctionner les réacteurs nucléaires,
ceux qui fabriquent les pompes à chaleur.
Chaleur et les distributeurs comme nous. Ben voilà, ça a fait corps, on est allé comme un seul homme, comme une seule femme, on est parti avec un plan. Ben voilà, on n'a pas besoin de se taper les uns sur les autres. Ça, c'est faire de la politique. C'est faire une coalition d'intérêts français et on marche ensemble, concurremment, mais ensemble. Et on n'a pas besoin de se tirer des bourres.
Total poursuit son plafonnement. Pardon, je vais vous reposer la question, mais est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce que c'est vraiment un coup de pouce pour les Français?
Pour le moment, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Nous, on serait en vente à perte et ce serait illégal. Donc, allez faire vos courses chez Total pour le plein et revenez faire le reste des courses chez le moins cher.
Ça reste une bonne nouvelle pour les Français.
Oui, ça compense pas les profits énormes qu'il a fait. Et sur le spectaculaire coup d'achat des 70 bateaux dont on a parlé ici, ni le cagnotage qu'il a fait pendant des années en vendant très cher sur le réseau français, mais au moins il se rachète une conduite. Vous voyez, tout ça c'est un peu cato coupable.
C'est-à-dire quoi, il y a une forme de laver la culpabilité.
Je pense que Monsieur Lecornu n'est pas pour rien dans le fait que Total fasse un peu d'opération commerciale.
Sauf que de l'autre côté, quand vous dites Monsieur Lecornu qui a donc voulu culpabiliser peut-être Total, il y a une autre forme de chantage qui est le chantage à la taxe. Mais ça, ça s'est arrêté hier, puisque à ce micro, à nouveau, le ministre de l'économie a dit non seulement il faut plafonner, donc ça, Total le fait, mais de l'autre côté, il y aura quand même vraisemblablement une taxation des super profits de Total, puisqu'il a dit qu'il ne s'y opposerait pas. Est-ce que vous, les autres, il faut effectivement qu'il y ait une plus grande participation pour combler les déficits de l'État ? Est-ce qu'il faut surtaxer
les déficits de l'État, à mon avis, ça sert à rien d'en parler avant les élections présidentielle. Il n'y aura personne pour en parler avant les présidentielles. Donc, c'est un gros sujet majeur, la dette française et tout. Mettez ça après 2027, ça tiendra jusque-là. La France n'est pas en faillite. Elle a des beaux points de
La France n'est pas en faillite.
Elle n'est pas en faillite. On fait des records. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas, qu'il va falloir réformer. Mais il y a plein de trucs qui marchent. Le tourisme marche. C'est 100 millions de touristes en France. Si la restauration ne marche pas derrière ça, c'est la restauration. On n'a pas fourni des bons produits. Il y a eu un effet carte postale des Jeux Olympiques. Un effet Notre-Dame. Le secteur de l'armement, on est devenu un des plus gros vendeurs d'armes, d'équipements marins, aéronautiques dans le front. Ça marche bien. La pharmacie marche bien. L'Oréal va bien. C'est la première entreprise mondiale. Donc, le truc aujourd'hui, plutôt, c'est de fédérer des Français sur des beaux projets. Il y a une chose pour la Maison France que je voudrais voudrais que qu'on fasse, c'est que vous voyez dans le débat qui nous anime avec les sénateurs, on nous demande à nos distributeurs d'afficher l'origine française des produits, oui, ou l'origine des produits,
oui,
et comme par hasard, on le demande pas aux industriels. Moi, je demande, mais je demande fermement, afin d'éviter toute confusion, puisqu'on n'a pas le droit de négocier la matière première agricole, puisque
parce que
la
ça,
loi
ça se
française.
Passe avant. On a bien compris. Hein. Il y a trois éléments. Il y a la matière première agricole, il y a l'industriel qui le transforme, c'est la charcuterie, c'est le laitage, c'est tout ce que vous voulez. Et ensuite, il y a vous, les commerçants, les distributeurs. Oui. Les deux premiers, ils se parlent entre eux, et vous, alors, vous parlez avec celui du milieu, l'industriel.
Voilà. Donc, je demande en fait deux choses. La première, c'est que la loi qui protège le revenu agricole, qui est censé protéger le revenu agricole, elle soit applicable aussi par la restauration, qui est un des plus gros acheteurs de l'agriculture, et par ringistes, les grossistes, voire même les exportateurs d'agriculture française, parce que quand ils exportent en Allemagne, moi je retrouve les produits moins chers concurremment aux produits français. Donc, extension de la loi Egalim à tous les acteurs de la filière agroalimentaire. Et le deuxième sujet, obligation pour les industriels, j'insiste là-dessus, pour qu'ils disent d'où viennent leurs produits.
Transparence.
Parce que moi, aujourd'hui, on me demande de mettre France, UE, Irlande, ou etc. Et ok, je le fais. Je suis pour l'indication d'origine.
Mais qu'ils le fassent aussi.
Parce que pour le moment, moi, je ne sais pas si le lait que j'achète de Nestlé, il a vraiment été acheté en France. Et quand on me dit qu'il faut pas négocier le lait à Bruxelles parce qu'il y aurait du lait français, jamais le fournisseur ne me dit la part de lait français.
Le lait Nestlé, le lait dans les yaourts, tout ça.
Absolument. Quand vous achetez un sandwich sur l'autoroute là hier soir, tout le monde revient sur l'autoroute, il y a des sandwichs Sodebo, des sandwichs Fleury Michon, etc. Il faut qu'on soit sûr que ce soit du porc français qu'on rémunère plus et non pas du porc espagnol. Ça, c'est vraiment deux choses importantes. Extension de la loi Egalim. Pas que à la distribution.
Vous rendez coup pour coup.
Ouais. Moi, mon philosophe, c'est Teddy Riner. Tu tapes, je tape.
Hein. Michel-Édouard Leclerc, les prix, est-ce qu'ils vont pouvoir baisser ou est-ce qu'ils vont se maintenir? On a presque l'impression d'ailleurs que désormais il y a un croisement des courbes essence-diesel qui n'ont pas exactement le même comportement mais qui restent tous les deux désormais très hauts. Est-ce qu'on est sur une sorte de plancher?
J'ai l'impression que, alors, d'abord, si ça se libérait, faut vous dire
mais
ça.
Cette nuit, ça a frappé à nouveau.
Ouais, mais hier soir, on discutait avec des professionnels de Leclerc qui travaillent toute la nuit. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on achète notre gasoil dans le golfe du Mexique. Hein. Il faut 20 jours, 25 jours pour le ramener ici. C'est plein de risques sur le dollar, sur le pétrole lui-même, sur le gasoil, sur les taux d'assurance. Donc, nos collaborateurs sont quand même des gens anxieux qui vivent dans l'attention. Et hier soir, on était relativement confiants et on se disait, tiens, ça passe plus un certain cap, peut-être qu'on va y arriver à revenir en dessous du 2 euros pour le consommateur et tout. Puis ils se sont tapés dessus
cette nuit,
et là ça repart quoi. Donc je vous dis, tant que ça reste comme ça, je t'aime moi non plus, je te tape mais tu signes, on est dans ce niveau-là. Si ça se répète un peu trop longtemps, l'inflation va passer de tout ce qui est carburant au reste de l'économie, hein, c'est clair, dans les emballages, les couches et les produits d'entretien. En même temps, on a l'impression qu'ils sont un peu épuisés de ce jeu de guerre et donc qu'ils cherchent une porte de sortie.
Mais pour vous, on ne reviendra pas au prix d'avant ?
On reviendra, je sais pas, il y a 1200 bateaux qui sont pleins de pétrole, qui sont à l'intérieur du golfe de Persique. Le jour où on va libérer ces 1200...
Ça peut, à l'inverse, faire vraiment baisser.
Oui. Alors vous voyez, je suis pas qu'un prophète de malheur.
Bon, vous le rassurerez de ce point de vue-là. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Michel-Édouard Leclerc, on est bien sur RMC et BFM TV, 8h47.